Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Pour ce nouvel épisode, on a eu la chance d'échanger avec Aude Guénaud, la fondatrice de Plume. Plume est une application d'écriture qui offre aux enfants entre 8 et 12 ans la possibilité de compléter des histoires, pour progresser en s'amusant en expression écrite. Le succès de Plume est déjà grand, puisque des dizaines de milliers d'enfants l'ont déjà utilisé. Nous sommes fans de ce nouvel outil pédagogique, d'autant plus qu'Aude a été enseignante pendant plusieurs années et s'est formée à la pédagogie Montessori. On espère que vous aimerez autant que nous la personnalité pétillante d'Aude. Bonjour Aude, nous sommes vraiment contentes d'échanger avec vous aujourd'hui pour parler de la belle aventure de Plume. Donc avant que vous parliez du concept de votre start-up Plume, j'aurais bien aimé que vous nous racontiez un peu votre parcours, puisque on est ravis de pouvoir échanger avec vous, notamment parce qu'on sait que vous avez été enseignante et c'est un métier qu'on souhaite valoriser particulièrement. Donc voilà, j'aurais bien aimé que vous reveniez un petit peu sur votre parcours et ce qui vous a amené à Plume.
Alors mon parcours, il est on ne peut plus classique. J'ai fait des études, enfin une classe préparatoire, Hippocagne, Cagne, et ensuite j'ai passé le CAPES et l'agrégation, et ensuite j'ai intégré un premier lycée où j'ai enseigné, et ensuite je me suis dirigée vers le collège. Donc j'ai vraiment une formation littéraire extrêmement académique. Mais il est vrai que depuis que j'ai commencé à enseigner, en fait, j'ai toujours été extrêmement intéressée par les sciences de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé donc une formation Montessori, donc que je vous ai décrite hein, dans un des lycées que vous avez constitué. Et ensuite, vraiment parce que j'avais une appétence pour les sciences de l'éducation, j'ai fait un master de psychologie clinique, avec une spécialisation en psychopathologie, parce que vraiment je m'intéressais au développement de l'enfant dans ce qu'il a de spécifique, et puis surtout ce qui est le développement cognitif. En fait, j'avais le sentiment que la façon dont je m'y prenais avec mes élèves ne fonctionnait pas, et donc je cherchais à savoir comment il fallait que je fasse pour que ça fonctionne. Donc j'ai eu vraiment ce désir de faire ça. Et puis ça m'a passionnée, et puis plus j'avançais dans cette démarche, plus je comprenais la place extrêmement décisive en fait de l'apprentissage de l'écriture, enfin de l'expression écrite. Alors du geste de l'écriture d'une part, mais surtout de l'expression écrite, avant de découvrir vraiment qu'il y a quelque chose d'extrêmement prédictif entre la réussite en expression écrite la réussite scolaire, hein, qui est bien sûr pas la réussite au sens large, mais en tout cas telle qu'on la caractérise dans le parcours scolaire. Donc c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée très très fortement à l'expression écrite. Et puis tout ça a été agrémenté d'un intérêt très fort pour toutes les pédagogies du projet, toutes les pédagogies alternatives, type Montessori bien sûr, mais aussi Steiner, etc. Et j'avais fait dans ma jeunesse, si je puis dire, beaucoup de scoutisme. Et je me rappelle que mon mémoire de validation d'enseignement, c'était sur voilà, la pédagogie du projet. Donc, vous voyez, j'ai toujours été un petit peu bercée par ça. Voilà, donc mon parcours scolaire, enfin académique, en tout cas ma formation, qui est très classique. Et ensuite, qui a été un petit peu menée par ma soif de toujours apprendre, qui fait beaucoup rire mon mari d'ailleurs.
Et alors, pourquoi vous aviez choisi le métier d'enseignante ?
Alors, pourquoi j'avais choisi le métier d'enseignante ? En fait, ça a toujours été... depuis très tôt, en fait, hein, je voulais enseigner. J'ai toujours aimé... déjà, j'ai toujours aimé écrire. Ensuite, j'avais ce désir de transmettre, enfin... J'avais envie de servir quelque part. Ça m'a toujours un petit peu suivi, quoi. J'avais envie d'aider, quoi. Donc, je trouvais que l'enseignement est vraiment une façon de rendre service. Qui est vraiment une façon assez belle, en fait, de rendre service. Et puis, j'aime bien le fait de s'adresser à des personnes, enfin, qui vont s'émerveiller de ce que vous allez leur présenter. Alors, de façon très diverse, hein, parce que moi, j'ai enseigné dans des zones sensibles, donc les gens s'émerveillent pas tous de la même façon, hein. Mais voilà, j'avais envie de servir, en fait. J'avais envie de mettre à disposition ce que j'avais reçu.
Voilà. Super. Et pourquoi vous êtes intéressée par la suite à la pédagogie Montessori?
Eh bien, alors, en fait, ce qui a été un peu le déclic, c'est que quand j'ai été enceinte donc de mon premier enfant, donc de mon fils, je suis passée par un moment de maternage proximal très, très fort. Et donc j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait autour du maternage proximal, des besoins des enfants, etc. Et je voulais... très très bien comprendre les différentes périodes par lesquelles passeraient mes enfants, parce que moi je m'adressais aux plus grands, donc j'avais besoin de bien comprendre ce qui allait advenir. Et puis fortuitement, hein, je connaissais pas du tout avant, j'ai découvert cette pédagogie. Ça m'a émerveillée, en fait, de voir que cette pédagogie elle avait été construite pour des enfants à grands besoins, en fait. Ça, je trouvais ça très fort, en fait.
Ouais, c'est assez extraordinaire ce que cette femme a créé, a observé il y a tant d'années, puis a réussi à mettre en place, quoi. C'est fabuleux, quoi.
Ouais, c'est incroyable, hein.
Ouais, c'est incroyable.
En fait, ce qui est incroyable, c'est que donc aujourd'hui. Beaucoup de personnes se saisissent de cette pédagogie et parmi ces personnes, il y a des personnes aisées. Donc, très bien, tous les enfants méritent d'avoir la meilleure éducation possible. Mais en fait, ce que je trouve très fort, c'est qu'à la base, c'est une nécessité pédagogique de répondre à des enfants qui, en fait, n'avaient pas accès à l'éducation.
Ça a commencé comme ça.
Oui, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à la création de Plume?
Alors, ce qui m'a amené à la création de Plume, c'est que du coup, alors il y a plusieurs choses. Déjà, j'étais perpétuellement en mouvement autour de l'apprentissage, et donc je sentais bien que, je sentais bien que j'allais mettre en place autre chose que l'éducation nationale, parce que je me formais, parce que il y avait quelque chose qui se passait en moi qui me disait que certainement j'allais dérouler mon propre projet. J'avais besoin de renouveau. J'étais plus tout à fait en adéquation avec mes premières aspirations. Donc ça, je le pressentais. Et puis, j'ai été contactée par l'Éducation nationale, donc du coup, pour avoir des stagiaires. Et en fait, ça a été le début d'une phase d'introspection assez forte, puisque je me demandais qu'est-ce qui finalement rend mon enseignement efficient, et si tant est qu'il le soit. Et je me suis dit, dans le fond, enfin moi, je faisais beaucoup de projets, on faisait une classe cinéma, on écrivait des scénarios, avec la Cinémathèque française, on écrivait beaucoup, on faisait beaucoup de choses extrêmement concrètes pour les enfants. Et en fait, je me suis dit, dans le fond, ce qui fait que mes élèves, ils aiment finalement le cours de français, c'est le fait qu'ils écrivent beaucoup. Enfin, je pense que vous êtes comme moi, vous avez déjà observé qu'un enfant qui écrit, il est totalement en projet, toutes ses aptitudes de concentration, etc., sont tout d'un coup mobilisées, donc c'est très très fort. Un enfant qui se met à écrire, ça fonctionne très très bien. Et je me disais, dans le fond, ce qu'il faudrait pour mes stagiaires, c'est qu'ils comprennent ça, c'est ce que dit Pline l'Ancien, c'est pas un jour sans une seule ligne. Et donc, je me disais, dans le fond, il faudrait que je trouve un outil qui permette à mes élèves d'écrire chaque jour, mais qui leur permette d'écrire chaque jour de façon extrêmement adaptée. C'est-à-dire qu'un enfant qui rencontre des troubles des apprentissages, il faudrait qu'il soit autant en réussite qu'un enfant qui n'en a pas, quoi. Il faudrait que ce soit vraiment extrêmement personnalisé. Et donc, à partir de ce constat, je me suis dit que finalement, il me fallait trouver une interface qui permettrait de faire ça. Et le numérique s'est rapidement imposé, parce qu'en fait, c'est vrai que le numérique, alors les enfants sur plume, ils écrivent pas nécessairement sur un clavier, donc ça c'est très important, parce que moi je suis très attachée aux gestes graphiques, etc. Mais en tout cas, l'interface numérique, elle permet quand même une très très grande flexibilité pour les différents profils. Et ça, c'est très très fort. Je veux dire, il y a aucun autre outil qui le permette. Donc, c'est comme ça qu'on a imaginé Plume. On voulait avec des collègues, hein, puisque on a créé un pôle en fait de professionnels de l'éducation, avec des orthophonistes, des psychopédagogues, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a imaginé Plume. On s'est dit, voilà, nous, on va créer des ressources en ligne qui vont permettre aux enfants d'être en situation d'écriture, donc des choses extrêmement concrètes, des choses extrêmement contextualisées. Et quel que soit leur parcours, et quel que soit leur ce qu'on appelle niveau, et quelles que soient leurs difficultés, ils vont être valorisés et ils vont pouvoir interagir et écrire autant qu'ils le souhaitent. Et ce qu'on veut surtout, c'est du renforcement positif autour de l'écriture. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas mettre en avant, par exemple, des erreurs ou je ne sais pas quoi. Nous, on veut faire que du renforcement positif pour vraiment valoriser le fait d'écrire. Voilà. C'est la seule chose qu'on souhaite, c'est que l'enfant écrive le plus possible et avec plaisir. Voilà. Et donc, on a imaginé ça. Et c'est comme ça que Plume a commencé. Alors, je vous parle de ça. Au début, c'était juste un PowerPoint. On envoyait des bouts de PowerPoint à nos premiers utilisateurs. Et on... Voilà, ils écrivaient un chapitre, puis on leur envoyait le chapitre d'après. Bon, bah, depuis, on a un petit peu avancé. Mais, mais voilà, c'est comme ça qu'on a créé Plume en février 2018.
Ça, je pense que vous avez raison, parce que moi, je dis souvent, quand ils écrivent, on n'est pas là pour corriger les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire, parce que s'ils écrivent et qu'ils se retrouvent avec un devoir rempli de rouge, ça leur donne plus du tout envie d'écrire.
Avec ça, hein.
Voilà, et ça, mais les gens, ils ont du mal à le comprendre, hein, même les parents d'élèves, ils nous disent, mais pourquoi vous leur avez laissé des fautes, quoi.
Pour les parents, alors déjà, c'est très dur pour les parents, parce qu'il y a une sorte de conditionnement autour de ça. Parce que mais je le vois même dans nous, nos correcteurs, donc on a un pôle de correcteurs. En fait, les gens ont un rapport à l'école qui est très intime, parce qu'évidemment ils étaient très petits, ils ont passé beaucoup de temps, et donc ils ont du mal à comprendre, par exemple, que à l'école leurs enfants, par exemple, vont pas vivre les mêmes choses qu'eux, par exemple.
Ouais, c'est vrai.
Non mais ça c'est très fort. Ou alors ils ont une vision très arrêtée de l'école. L'école, ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Ou alors, ils ont du mal à envisager que, bah, en fait, on n'enseigne plus de la même façon. Surtout, c'est plus du tout les mêmes attentes. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est compliqué. Et je peux très bien le concevoir. Et même nous, dans nos correcteurs, donc, on forme des correcteurs qui doivent être bienveillants, etc. Ma collègue Juliette, elle assure la formation des correcteurs. Et il y a des gens qu'on peut pas retenir parce qu'ils ont des discours où ils disent je vois pas pourquoi je valoriserais alors qu'il y a pas grand chose à valoriser. Enfin, je veux dire, c'est ça dit quelque chose de eux, ce qu'ils ont vécu, quoi.
Bien sûr.
C'est terrible.
Puis souvent, exigences avec des enfants très jeunes, quoi. Moi, je leur dis, mais attendez, ils ont 7 ans, 8 ans, ils ont même pas les notions, quoi. C'est si dur le français, en plus, si dur.
Mais c'est très dur. Et puis, en plus, enfin, je veux dire, le fait qu'un enfant écrive une phrase et qu'il fasse 7 chapitres sur plume, en soi, indiscutablement, il a accompli 7 tâches complexes d'écriture en situation de lecture. C'est extraordinaire.
Bien sûr, c'est extraordinaire.
Donc, il n'y a pas à aller plus loin que ça, quoi.
Ah ben
donc
non.
Ça, c'est... Voilà. Mais ça, c'est quelque chose... Les gens ont un vécu et je crois qu'il y a aussi quelque chose de très intime qui se joue autour de la langue.
Oui, oui.
Et de l'écriture. Hein. On se raconte, on dit qui on est. Souvent, je dis... on n'écrit pas pour être évalué. On écrit pour dire... Enfin, les enfants sont comme nous. Hein.
Bien sûr.
Ils n'écrivent pas pour... pour avoir une note, ils écrivent pas, ils écrivent pour raconter ce qu'ils ont dans la tête, ils écrivent pour dire leurs sentiments, ils écrivent pour communiquer, quoi. Le nombre de témoignages qu'on a d'enfants qui disent, bah voilà, j'ai apporté mon livre à ma maîtresse, mes parents, ils étaient épatés que je puisse écrire un livre par moi-même, bah, évidemment. C'est émerveillant de pouvoir faire
ça. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est ça qui leur donne envie encore de créer, d'imaginer, parce qu'ils sont pas bloqués par des règles ou par des
complètement.
C'est ça qui est formidable en fait, c'est de les laisser s'exprimer le plus possible par écrit en fait.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Et pour les dyslexiques, c'est pire parce que moi je vois le nombre d'enfants dyslexiques qu'on a reçus en cours de scolarité qui n'écrivaient plus rien du tout, parce que quand on leur dit ce que tu écris, ça n'a pas de sens, j'arrive même pas à lire. Comment peuvent-ils avoir confiance en eux, quoi, pour écrire encore, quoi. Du coup, ça les coupe, quoi, complètement.
Mais complètement. Et c'est très inhibant, en fait.
Mm-mm.
C'est très inhibant, alors qu'en fait, la seule chose qui compte, en fait, c'est vraiment juste qu'ils écrivent. Enfin...
Parce que, justement, je me demandais si vous pouviez rappeler concrètement quelle est l'expérience plume pour un enfant. Qu'est-ce qu'il va vivre grâce à plume, concrètement?
Alors, très, très simplement, très concrètement, l'enfant va donc sur l'application, sur la plateforme. Il va choisir le début d'une histoire adaptée à sa tranche d'âge. Donc, on propose des histoires, à la fois des histoires originales, mais aussi de la littérature classique. Donc, il va choisir dans sa tranche d'âge, 8, 9, 9, 10, etc. Il rentre dans l'univers, il choisit le début d'une histoire. Et il va lire le premier chapitre ou il va l'écouter parce qu'on est en train de vraiment développer toutes les fonctionnalités audio. Et puis donc il l'écoute ou il le lit. Et ensuite, pour accéder à la suite, il va devoir lui-même écrire. Et plus il écrit, plus il est incité à le faire. Donc à chaque fois qu'il écrit, il y a des badges qui apparaissent. S'il a besoin, il a des amorces de phrases, il a du vocabulaire, il a la possibilité d'avoir... La mission d'écriture qui est reformulée, il peut appuyer sur un mot et puis l'imagier du mot apparaît, etc., etc. Donc il a toute une palette de fonctionnalités. Il peut consulter un résumé s'il a besoin. Il peut mettre la police pour les enfants dyslexiques. Enfin bon, bref, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut changer l'interligne, etc. Et puis à la fin des 7 chapitres, il va être corrigé. Donc d'une façon toujours positive, c'est pas corrigé d'ailleurs, c'est relu en fait, précisément, il va être relu et on va lui proposer des pistes et des encouragements pour son prochain écrit, voilà. Et voilà, et ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que l'enfant tout au long de son expérience, il va être totalement acteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer ce dont il a besoin. S'il a besoin de consulter le résumé pour être sûr qu'il a bien compris, il consulte le résumé, etc., etc. Voilà. Donc, il va vivre ça tout au long des 7 chapitres et ensuite, il va pouvoir éditer son livre. Donc ça, évidemment, c'est hyper sympa. C'est la partie vraiment, l'effet waouh qui fonctionne très, très bien. Les enfants reçoivent leur livre. Et puis, on écrit sur la couverture que c'est eux qui ont écrit le livre, illustré par des professionnels, et puis c'est hyper sympa. Et dans leur espace personnel d'écriture, ils ont tout ce qu'ils ont écrit, tous les mots d'encouragement qu'ils ont reçus, etc.
C'est génial. Et donc, vous ne travaillez pas exclusivement avec des établissements scolaires ?
Alors, on travaille avec beaucoup de personnes. On travaille avec, donc déjà, on a quasiment 20 000 familles qui sont inscrites sur Plume.
Oui.
Donc, c'est quand même beaucoup. En deux ans, c'est beaucoup.
Ouais, c'est énorme.
Ensuite, on a 10 000 enseignants. Donc, 10 000 enseignants du public, du privé, contrat, sous contrat, hors contrat, etc. Et on a des orthophonistes aussi qui travaillent avec nous.
Ah, c'est bien.
Et ça, ça fonctionne très bien. Et puis, on a aussi des sociétés qui vont, par exemple, des CE notamment, qui vont acheter des coupons, par exemple, Plume, pour offrir, parce qu'ils ont bien compris que l'écriture, c'était vraiment un sujet qui est au cœur, enfin, qui est absolument nécessaire, et qui vont offrir à leurs salariés, par exemple, des coffrets Plume.
C'est génial. Et quel a été l'accueil de l'éducation nationale ?
Alors, ben, l'accueil de l'éducation nationale, bon, moi, j'ai enseigné pendant 12 ans, donc c'est vrai que je connais déjà beaucoup de...
Vous connaissez la maison.
De collègues, voilà, c'est ça. Ben, je dirais que... Donc, l'éducation nationale, ils ont un devoir quand même de réserve face aux sociétés privées. Hein, donc c'est,
bien sûr.
Ça, c'est normal. Non, ça, là, on a été reçus plusieurs fois. Je pense qu'on... On commence à être vraiment bien connu dans le domaine de l'éducation nationale parce qu'on est maintenant extrêmement bien référencé par le rectorat. Là, pendant le confinement, on a eu une très très forte croissance. C'est vrai que le sujet de la production d'écrits est un sujet très important puisqu'en plus, maintenant dans le cycle 3, il y a une compétence qui s'appelle écrire avec le numérique et qu'on est, enfin, on est les seuls à pouvoir proposer concrètement de travailler cette compétence. Donc, je pense que ces initiatives font leur chemin et puis prennent de plus en plus de place. Je pense que de toute façon, c'est le sens de l'évolution de l'enseignement. Je pense que l'enseignement, pour être plus égalitaire et plus juste, il va être obligé d'être plus numérique et puis plus personnalisé. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je pense que c'est... Quand je vois les progrès qu'on est capable de faire avec Plume, par exemple, avec des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages, je pense que de toute façon, les résultats sont là. Nous, on est en train de... Là, on a un partenariat avec le CNRS. Et en fait, on est en train de mettre en place une étude qui va permettre de mesurer combien les enfants progressent avec Plume.
Ah, c'est super,
donc,
ça.
Ouais, c'est super intéressant parce que, je veux dire, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes.
Ouais. Et ce sont les enseignants qui prennent un coffret Plume et pour leur classe, en fait. C'est comme ça que ça se passe avec l'éducation nationale ?
Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les enseignants vont acheter à l'année ou au trimestre, comme ils préfèrent, pour leurs activités d'écriture. Donc, ça coûte entre 19,90 € et 39,90 €. Donc, il y en a beaucoup, je les soupçonne de les payer de leur propre denier. Hein.
Oui, mais, ça ne m'étonnerait pas.
Ouais. Mais en tout cas, ils prennent ça à l'année. Et ensuite, ils ont un accès totalement illimité à toutes nos histoires. Et voilà. Et donc, ils ont un espace totalement dédié pour l'écriture. Ils peuvent faire des petits rappels de leurs cours. Ils peuvent demander des... Ça, c'est génial. C'est qu'en fait, ils ont un espace, un espace complet où ils vont pouvoir collecter toutes les productions d'écrits de leurs élèves et faire des demandes de modifications hyper spécifiques sur tel ou tel chapitre. Ils vont pouvoir utiliser Plume ou pour de la remédiation ou pour un projet de classe global. Enfin, c'est vraiment super intéressant, quoi.
À ce moment-là, c'est eux qui utilisent l'ordinateur pour le programme ou ils ont un ordinateur, c'est les enfants qui écrivent directement ?
Eh ben, ça peut être l'un ou l'autre. On a beaucoup d'accord. de cas de collègues qui projettent au tableau, par exemple, les débuts d'histoire. Les enfants écrivent à la main sur leur cahier, etc., etc. Et ensuite, l'enseignant, il prend en photo, il charge sur l'application. Donc
c'est
ça, il n'y a pas besoin de tablette de ce point de vue-là pour les enfants. Puis ça dépend les moyens d'école, ça dépend l'objectif pédagogique, etc. Ou alors, on a des collègues qui font écrire chaque jour, par exemple, un chapitre. Et ensuite, pendant les temps libres, eh bien, il y a une ou deux tablettes et puis l'enfant peut aller taper son texte. Ou alors, l'enseignant regarde et puis souligne des points de vigilance. L'enfant corrige son texte et ensuite, il va le saisir. Enfin, il y a plein de cas de figure. On a aussi beaucoup d'ateliers de remédiation où, en fait, c'est un moyen, par exemple, de travailler de façon juste le plaisir d'écrire. Donc, l'enseignant met à disposition pour des élèves qui auraient besoin le fait d'écrire sur plume, de façon totalement récréative. Donc, c'est super intéressant, quoi.
Et comment vous gérez, d'un point de vue ressources humaines et équipe dans votre entreprise, le fait de relire l'ensemble de ces contenus et de répondre de manière personnalisée?
Alors, alors, c'est plus moi qui m'en charge, hein, mais il a été pendant très longtemps, c'était moi qui faisais. C'était moi qui faisais énormément de choses, mais qui faisait la relecture, etc. Évidemment, parce qu'au début, on était deux chez Plume, donc évidemment. Maintenant, on est 8, mais en fait, le pôle de correcteur est vraiment détaché de l'équipe. Donc, c'est pas l'équipe de Plume qui relie. En fait, on forme vraiment des correcteurs, des relecteurs. Indépendants, la plupart sont des enseignants ou alors ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine de l'édition jeunesse. Et l'essentiel pour nous, c'est on procède. Il y a toujours un système de double correction, ça c'est super important, qui est toujours un double regard porté sur le texte de l'enfant. On a une charte de correcteur. Une charte éthique, il y a des contenus évidemment qu'on n'accepte pas, qui sont des gros mots, des insanités, etc. Bien sûr, on n'accepte pas. Les droits de l'enfant qui écrit, donc ça, vous pouvez les voir sur notre site. Par exemple, les enfants ont le droit de pas vouloir écrire un chapitre, par exemple. Une fois que le relecteur, eh bien, il a validé la petite formation chez nous et qu'il est en binôme avec Juliette ou avec moi pour la correction. Une fois qu'il a validé ces 5 corrections, eh bien, ça y est, il fait partie des relecteurs plumes. Et à ce moment-là, eh bien, il peut relire les textes d'enfants. Et nous, on a toujours une double relecture. Donc, il y a quelqu'un de chez nous qui procède aux validations finales parce que on veut toujours qu'il y ait vraiment l'esprit plume de bienveillance. Je pense qu'on va être obligé bien sûr de d'automatiser un petit peu certaines choses, mais l'idée c'est que moi je tiens vraiment à ce que les enfants soient relus par des personnes parce que c'est important d'écrire pour quelqu'un, quoi. Enfin, je trouve que ça fait sens d'écrire pour quelqu'un.
Ah oui.
Et est-ce que vous avez eu des freins quant au fait d'utiliser des outils numériques ?
Oui, bien sûr. Hein. Enfin, ça, quand je fais des interviews, j'ai deux questions qu'on me pose à chaque fois. Ouais. Donc la première question, c'est, je vous le dis avec humour, hein, la première question, c'est mais les écrans, c'est le mal. Donc je dis non, c'est pas le mal, c'est justement il faut que ce soit des supports pour le déploiement de l'intelligence des enfants plutôt que quelque chose qui les a servis.
Il faut savoir l'utiliser surtout.
C'est très important, enfin d'autant que quand vous travaillez sur Plume, vous n'êtes pas nécessairement en train d'écrire sur un clavier. Et puis tout l'aspect personnalisation de contenu, je pense que c'est absolument déterminant pour faire progresser réellement des enfants. Ça, c'est la première question que j'ai tout le temps, quasiment. Et la deuxième question que j'ai tout le temps, c'est avec Plume, les professeurs vont servir à rien. Donc je dis non. Enfin, je veux dire, c'est bien l'inverse. C'est que les enseignants vont faire enfin des tâches à haute valeur ajoutée. Donc, c'est super important, en fait. C'est ma vision, hein. Mais oui. Selon moi, les enseignants doivent être des spécialistes de la relation avec l'élève, quoi. Ils ne doivent pas être en train de faire des photocopies avec des polices différentes pour leurs élèves. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois l'enseignement. les enseignants doivent être des spécialistes de la relation avec les élèves.
Bien sûr.
Ils doivent être très très forts là-dessus, mettre en place des situations extrêmement bienveillantes, extrêmement créatives, etc. Et donc se saisir d'outils comme Plume, mais comme d'autres outils, pour mettre en place un enseignement performant.
Bien sûr.
Donc,
puis s'adapter, s'adapter donc, à chaque enfant.
C'est tout l'inverse, selon moi, voilà. Voyez. Mais, ah, oui. Mais je perçois, quand les gens disent ça, de l'inquiétude, et je les comprends.
Oui, mais même l'outil numérique, c'est quoi, il fait partie de nos vies, mais au contraire, il faut apprendre à l'enfant à s'en servir correctement, et dans des buts intéressants.
Oui, c'est sûr.
Et alors, on se demandait comment est-ce que vous sélectionnez, enfin, comment vous créez vos histoires ?
Alors, comment est-ce qu'on crée nos histoires ? De plusieurs façons. Alors, première façon, les premières histoires, c'est quasiment moi qui les ai écrites, enfin, toutes écrites, donc, déjà très simplement. Voilà, donc bon, moi, j'ai écrit toutes les premières histoires. Et ensuite, deuxième façon, donc là, du coup, on s'appuyait sur un schéma actantiel assez classique, avec la situation initiale, les péripéties, etc. Et la deuxième façon, ce sont les licences dont on bénéficie, notamment la licence avec la BNF, qui est très très intéressante, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on n'est pas exigeant. C'est super important de faire côtoyer, pour que les enfants côtoient des textes extrêmement beaux, extrêmement bien écrits, extrêmement exigeants aussi. Et à mon avis, c'est en côtoyant extrêmement fréquemment des beaux textes que justement on obtient des résultats en vocabulaire, en syntaxe, etc., etc. Donc c'était très important pour moi d'avoir une proposition littéraire très aboutie. Et donc, ce partenariat avec la BNF, il correspond en tout point à ce que je voulais. Là, par exemple, avec les cahiers de vacances, on a eu la semaine de l'aventure, et donc, il fallait écrire des Robinsonades. Enfin, c'est quand même culturellement complexe, quoi. Donc ça, c'est super, quoi.
D'ailleurs, vous pourriez nous parler des cahiers de vacances, parce que ça, c'est une nouveauté de cet été, si je ne me trompe pas.
Oui, alors les cahiers de vacances, alors ça, c'était vraiment top. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un client qui nous a demandé des cahiers de vacances. Et puis évidemment, enfin moi j'ai fait des cahiers de vacances quand j'étais petite, j'adorais ça, mais je pense que tous les enfants ne sont pas dans mon cas. Et on s'est dit avec la responsable pédagogique, donc avec Juliette, on s'est dit bon. On va proposer des cahiers de vacances à l'image de Plume, c'est-à-dire qui sont un mélange de support numérique et de support physique. Et donc, on s'est lancé dans cette histoire de cahiers de vacances. L'idée, c'était de proposer un livret de progression. Donc, l'enfant pourrait coller des autocollants, voir tout son parcours, etc. Et ils recevaient des petites surprises, etc. Mais c'est aussi de proposer plein de supports très différents. Donc, les enfants vont pouvoir envoyer des cartes postales sur l'application. Ils vont faire un parcours dans l'application chaque semaine. Madame Perruche, donc notre professeure, qui est, je ne vous cache pas, un petit peu spéciale, va proposer donc un parcours d'écriture. Et puis, surtout, on va proposer plein de contenus sous forme de tutos rigolos. Avec des scènes pleines d'humour pour permettre aux enfants d'être en relation avec des contenus pédagogiques mais de façon non académique. Voilà. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin ils vont avoir écrit entre 4 et 8 histoires et puis qu'ils pourront imprimer le chef-d'œuvre de leur choix. Donc voilà, c'est tout un parcours dans l'application chaque semaine avec des défis créatifs, des astuces de Madame Perruche tout au long de l'été.
C'est incroyable les développements. Là, j'étais en train d'y penser de votre entreprise en seulement 2 ans.
Ah, bah merci. merci. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui ont eu tout de suite foi dans le projet. Et qui ont transformé le projet. Et là, je pense très spécialement à mon associé qui est Thomas, qui a développé l'application, la première version en 3 semaines, ce qui est totalement hors norme. Et en me disant, ah ouais, super, non, mais d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, non, mais en fait, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, en fait, j'ai déjà commencé à coder. Ah, je lui ai dit, ah d'accord. Donc, en fait, génial. Il a... Ouais, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé de très fort avec Thomas, où on s'est vraiment compris, alors que... Enfin, on a des vies extrêmement différentes. Quand on s'est rencontrés, je pense qu'il avait, il avait 25 ans. Il sortait de son école de développeur. Il partait faire le tour du monde avec son amoureuse, etc. Puis moi, j'étais mère de 3 enfants. J'enseignais. Enfin, vraiment des vies qui n'ont rien à voir. Et en fait, on s'est compris. C'était très drôle. Enfin, très drôle. C'était comme ça, quoi. Il a aimé le projet. Et puis, Benjamin... qui est un ami de longue date. Et en fait, il se trouve que Benjamin, il a fait HEC. Ensuite, il a fait du conseil en entreprise, etc. Et tout de suite, il m'a dit « Ah non, mais je sais que ça va marcher, j'adore. » Et en fait, incroyable. Je lui dis « Ah bon, mais t'es sûre ?» Enfin, je veux dire, il a été incroyable. Il m'a prêté de l'argent pour que je puisse commencer la société. Enfin, sans lui, j'aurais jamais pu le faire. Et il a fait tout ce qui était... business model, il m'a présenté des investisseurs. Enfin, il a été vraiment... ce sont ces deux personnes qui ont cru en moi et qui ont fait de moi une personne capable de monter plume. Parce qu'en fait, je pense que j'avais envie de le faire. J'étais vraiment passionnée par ce projet. Mais entre être passionnée et penser qu'on a les ressources pour le faire en termes de leadership, de recruter des gens, etc., c'est pas la même chose. Bien sûr. En fait... Thomas et Benjamin, ils n'ont jamais douté. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en fait, eux n'ont jamais douté et ils ont toujours pensé qu'on réussirait.
C'est génial. Parce que c'est assez atypique de voir quelqu'un qui vient de l'enseignement se lancer dans le monde des startups qui sont généralement des profils assez homogènes.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Et surtout quand on est une femme... Et surtout quand on n'a pas fait d'école de commerce, quoi.
Donc, exactement, c'est ça.
et en fait, ça... Voilà, ils ont tout de suite cru au projet. Et ça leur parlait, quoi. Ils trouvaient que... Enfin, Benjamin, il me faisait rire parce qu'il était dans un cabinet de conseil. Il me disait, non, mais tu comprends, moi, je fais des études sur des jus d'orange toute la journée, franchement... Enfin, honnêtement, ça n'a aucun sens, quoi. Il me dit, je suis en train de réfléchir à où placer le jus d'orange dans un supermarché pour que ça fasse acheter les gens. Il me dit, tu vois, c'est...
C'est vrai. On arrive au bout de cet entretien. Moi, j'aurais bien aimé que vous nous parliez quand même des futurs projets que vous avez sur Plume.
Eh bien, les futurs projets, alors, sont vraiment des projets de développement technologique sur tout ce qui est R&D. Là, on a vraiment une velléité de travailler pour les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Notamment, on a un appel d'offres qui est avec la Commission européenne sur une plateforme qui s'appelle Eurodis, qui va permettre de faciliter vraiment la prise en charge de la production d'écrits pour les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Moi, je crois très fortement que quand on aide les enfants qui ont le plus de difficultés, en fait, on aide tout le monde.
Bien sûr.
Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur. Je pense que un enfant sur 10 rencontre des troubles des apprentissages, c'est un sujet. En France, c'est très difficile pour les familles de pouvoir avoir accès à de la prise en charge, tout simplement parce que les orthophonistes sont totalement débordés. Très souvent, sont des enfants qui rencontrent de l'échec scolaire, et donc une souffrance à l'école qui est très forte. C'est un sujet auquel je suis sensible parce que j'ai vu énormément d'enfants dans cette situation.
Et sont
des enfants, pour la plupart, qui sont très brillants, qui ont une grande sensibilité, etc. Donc, je crois que voilà, s'atteler au problème de l'expression écrite et aux troubles des apprentissages, ça va être quelque chose qui va nous occuper longuement.
C'est génial.
Ouais, c'est un vrai besoin, c'est un vrai besoin. Et là, vous allez apporter beaucoup. Parce qu'en plus, ils perdent confiance en eux, ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents, et donc ça agit sur toutes les matières. Moi, c'est ce que...
C'est évident. Vraiment,
c'est partout, quoi. Ils n'osent plus écrire, ils n'osent plus lire, ils n'osent plus rien.
J'en suis vraiment certaine.
Ah ouais, moi aussi.
Et alors, est-ce que vous pensez un jour retourner vers l'enseignement ?
Ah, ben alors ça, c'est une question que je me pose moi-même. J'ai adoré enseigner. Je suis tombée amoureuse de l'enseignement avec ma première classe. Je m'en rappelle extrêmement bien. J'ai pas l'impression d'avoir quitté l'enseignement, pour tout vous dire. Oui. Parce qu'en fait, on parle avec des enseignants toute la journée et on résout des choses voilà, toute la journée. Peut-être que j'y reviendrai, mais plus tard, je pense, et sur une autre discipline que le français. Par exemple, je me vois bien dans quelques années. Là, par exemple, il y a un projet dans mon incubateur autour des jeunes défavorisés sur l'entrepreneuriat. Je me vois bien faire ce genre de choses. Vraiment quelque chose d'extrêmement concret pour donner de la confiance autour de projets, de choses pas du tout académiques. Je me vois bien faire ça, par exemple.
C'est génial. Que de beaux projets. Ouais. Merci mille fois pour ce temps passé avec nous. On adore votre projet, on est très fans.
Ouais.
Et on est ravis d'avoir pu apprendre tout ça.
Puis on va le prendre pour nos classes.
J'espère bientôt qu'on pourra faire des choses ensemble alors dans les écoles. Et puis,
ouais, j'aimerais beaucoup.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Ah oui, vous inquiétez pas, à la rentrée, ça va partir tout ça.
Écoutez, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.